Ben, je vous le disais, c'est une semaine consacrée au thème global de l'environnement. On va parler dans quelques instants de cette conférence sur le climat qui aura lieu donc à compter d'aujourd'hui aux Nations Unies. Mais aussi à Québec, c'est la commission parlementaire sur les pesticides. Depuis que l'agronome Louis Robert a sonné l'alerte, beaucoup de questions se posent. On a vu entre autres ce reportage dans la presse en fin de semaine sur une rivière complètement polluée. Il n'y a pas que les sols qui peuvent être contaminés par des pesticides, mais on le voit très bien maintenant. L'eau aussi, avec des impacts sur la faune et surtout le constat que peu de joueurs sont équipés pour encadrer, réglementer. On a comme une loi édentée et tu confies ça aux municipalités pour essayer de gérer ça. J'en parle avec Valérie Langlois, qui est professeure à l'Institut national de la recherche scientifique et qui fait partie de ces chercheurs qui vont présenter un mémoire devant la commission parlementaire. Madame Langlois, bonjour.
Bonjour, M. Arcan.
D'abord, comment vous avez abordé la question dans votre mémoire? Je sais que vous mettez beaucoup en évidence le principe de précaution. Alors, expliquez-nous ce que vous voulez dire par ça.
Souvent, les chercheurs, on génère des données et puis on reste dans nos labos puis on ne va pas les présenter à la société ou au gouvernement. Dans ce cas-ci, ça fait plusieurs années qu'on travaille sur les pesticides, sur les effets des pesticides, sur la santé humaine, sur la santé environnementale et je croyais que c'était le devoir de venir présenter ici à la commission les effets qu'on a, l'accumulation des données sur les effets des pesticides sur la santé humaine et des écosystèmes. Ce qui est important de comprendre, c'est que le mémoire qu'on présente, c'est pas une compilation de tout ce qui se fait, tout ce qui s'est fait sur les effets des pesticides là partout sur la planète, mais bien ce que les chercheurs de l'INRS ont produit, qui est aussi à l'image, qui représente les conclusions aussi de la communauté internationale. Ce qui est important de comprendre aussi, c'est que dans notre mémoire, les pesticides qu'on a étudiés à l'INRS sont quatre d'entre eux, dont les néoniques et l'atrazine. Et puis, ces pesticides-là ont été bannis, ils sont bannis depuis plusieurs années par d'autres pays. Alors, c'est pas une recommandation, mais c'est un état des faits que nous faisons dans le mémoire.
OK, je vais vous arrêter juste là-dessus pour que les gens comprennent encore mieux. Vous me parlez donc qu'il existe au Québec des pesticides qui sont utilisés alors que dans d'autres pays, ils sont interdits.
Exactement. C'est que les données étaient assez probantes il y a même plus de 15 ans pour bannir l'atrazine, pour pouvoir le faire. Alors, une des questions que la commission devra se pencher, c'est à savoir est-ce que nous, on en a besoin ici au Québec.
Et qu'est-ce qu'on a découvert sur l'effet de ce pesticide sur la nature?
Si on parle de l'atrazine, oui. On sait que ça féminise ou ça démasculinise les animaux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ces termes-là? Ça veut dire que, par exemple, il va y avoir une diminution des hormones qui sont importantes pour les mâles, on les appelle les androgènes. Il va y avoir une diminution de la quantité de sperme, les testicules vont être plus petites. Et puis ça, c'est des effets qu'on voit à travers les classes de vertébrés, qu'on parle du poisson, de la grenouille, des reptiles ou même les mammifères. Donc, c'est des données qui sont importantes et que ça fait 20-30 ans qu'on sait que ce sont des effets. Alors, c'est ce qu'on fait ici, c'est le constat des effets qui sont importants au point que peut-être que la réglementation serait due.
OK. Parlez-moi de l'autre catégorie là, qui est toujours très controversée, les néonicotinoïdes.
Oui, d'après les travaux de chercheurs qui ne sont pas les miens à l'INRS, on a démontré que ça aussi va faire activer des enzymes qui vont générer qui vont produire des hormones. Les hormones, cette fois-ci, c'est les hormones, les estrogènes, les hormones femelles, qui vont dans les cellules cancéreuses, comme la cellule, les cellules cancéreuses du sein ou de l'ovaire, vont pouvoir permettre la prolifération de ces cellules-là cancéreuses pour l'humain. C'est les constats que nous, on a fait au niveau de la recherche.
OK. Est-ce que je me trompe, parce qu'on en a parlé, je pense que c'est la Fondation Suzuki qui va aussi présenter un mémoire, là, de lien entre la présence dans l'environnement de pesticides et le développement de certaines maladies. Le lien qui serait le plus explicite jusqu'à maintenant, ce serait concernant la maladie de Parkinson.
Oui, ben comme vous, là, j'ai aussi suivi ces nouvelles-là, mais par contre, c'est pas les. Je suis pas expert dans la matière, okay. Là, c'est pas le type de travaux que je fais, oui.
Est-ce que vous avez lu le reportage dans la presse samedi sur la rivière aux horreurs?
Oui, rapidement, oui.
Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que moi, je regarde ça, puis je me dis, puis là, je sais que vous êtes chercheur, là, mais quand même, là, c'est une présence dans l'eau, des populations autour, population humaine, population animale. Tu sais, d'avoir une espèce de, quoi, un mètre de protection pour éviter que la rivière soit contaminée. Il me semble qu'un mètre, c'est pas beaucoup.
C'est un très bon point. Ça va être quelque chose aussi que je vais dire en commission. Une des possibilités qu'on peut faire autour des champs agricoles, c'est une technologie que je travaille présentement avec des chercheurs au fédéral et au provincial, c'est de mettre des bassins de rétention. Fait qu'en plus de ces bandes riviennes-là, on oblige un peu les eaux de percolation agricoles d'aller dans un bassin de rétention où les eaux vont vieillir avant d'aller ensuite passer là, ces bandes riviennes pour aller se jeter dans les rivières. Donc, il y a des techniques présentement qu'on peut utiliser pour améliorer un peu là ou diminuer les apports de pesticides dans l'environnement.
Mais c'est clair qu'il y a certains produits qu'il faut interdire, puis d'autres, donc il faut extrêmement contrôler l'utilisation.
Oui, je suis d'accord avec vous. Et puis, c'est un petit peu le constat que la commission pourra faire, voir le besoin d'avoir quels pesticides les agriculteurs ont vraiment besoin, parce que on peut pas s'en cacher, on peut pas tout bannir les pesticides. Les agriculteurs, il y en a qui peuvent pas, ils doivent utiliser pour avoir certains légumes ou fruits. Donc, c'est important de bien comprendre lesquels sont essentiels encore et lesquels qu'on utilise qu'on n'aurait pas besoin. Je pense que la MAPAC avait été claire au départ que les néoniques, par exemple, on n'avait pas besoin de les enrober d'utiliser cette technologie-là au Québec, on n'en avait pas besoin et ça a été utilisé pour des raisons qui sont hors de mon contrôle.
Ouais, je vais vous dire pourquoi, vous peut-être pas me le dire, mais c'est parce que le lobby est assez puissant pour forcer le monde à les utiliser, à les convaincre plutôt là, que c'est bien essentiel.
Ça, je vous laisse le dire.
Parfait.
Mais mon point pour conclure comme vous, je suis d'accord qu'il faut faire une grande revue de littérature. Il faut comprendre quels sont les pesticides qui ont vraiment des effets à la santé qui sont importants et puis lequel aussi, en parlant à nos agriculteurs, sont essentiels présentement. Trouver des alternatives. Et puis, je pense que présentement, en mettant les chercheurs, les agronomes, le gouvernement, les agriculteurs à la même table, c'est un bon moment présentement pour prendre des bonnes décisions, pour aller de l'avant, pour avoir une bonne idée d'améliorer les choses ici au Québec et en espérant d'être un leader pour le reste du monde.
Merci beaucoup, Mme Langlois. Bonne journée.
Ça m'a fait plaisir.
Au revoir. Valérie Langlois est professeure à l'Institut national de la recherche scientifique. Puis c'est vrai que c'est un gros jeu de lobby, là. Puis Louis Robert l'a dit, on peut faire de l'agriculture au Québec, même de grande échelle, sans avoir autant besoin de ces produits. Puis c'est assez étonnant de voir que des produits bannis dans le monde depuis longtemps peuvent être encore utilisés.